France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Bonjour, c'est monsieur Vincent Dubois à l'appareil. Je vais parler à ma femme.
Ah non, monsieur, c'est une erreur. Oui.
Oui, vous n'êtes pas le 613-3813? Bon, et Alice n'est pas là?
Si. Ah oui, ah bien Alice, mais c'est pas votre femme, c'est la mienne. Non, il n'y en a pas d'autre. Non, mais je vous en prie, ça peut arriver à tout le monde. Au revoir, monsieur.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Afin d'appréhender les composantes d'une société, ses frustrations, ses déséquilibres, ses bonnes consciences affichées, c'est une méthode féconde que de considérer les comportements déviants qui bousculent ses certitudes et disent ses fragilités. C'est dans cet esprit que ce matin, nous allons parler de la bigamie de siècle en siècle. Il s'agit, j'en conviens volontiers, d'un phénomène apparemment rare, mais dans son insolence même, il n'a pas cessé d'adresser quelque chose comme un pied de nez à l'institution du mariage. Cette institution que les églises sacralisent et qui a rassuré d'âge en âge le conformisme séculier. En face du défi de la présence des bigames, soit qu'ils affirment leur perversité, soit qu'ils révèlent leur naïveté, les réactions ont beaucoup varié, du côté de l'opinion publique comme des tribunaux. C'est ce que montre fort bien, dans un ouvrage sur ce thème, mon invité, Benoît Garneau, professeur émérite à l'Université de Bourgogne et spécialiste de l'histoire de la justice. Platon le disait déjà, pour qu'une république soit bien ordonnée, les principales lois doivent être celles qui règlent le mariage. Soit, soit. Et pourtant, la bigamie ne devrait-elle pas relever de la liberté individuelle? La littérature, quand elle s'empare du sujet, et des acteurs, qu'ils soient peints comme des criminels ou comme des naïfs, posent volontiers cette question existentielle, dans l'ordre du dramatique, du côté du roman le plus souvent, et dans l'ordre plutôt du comique, au théâtre et au cinéma. À vrai dire, la bigamie semble actuellement en recul. Elle souffre de l'efficacité administrative pour la débusquer, avec l'aide des technologies modernes, donc pour l'interdire, mais elle pâtit aussi du succès du concubinage aux dépens du mariage, qui, dans sa forme contemporaine, l'a fait échapper au prétoire. Raison de plus de se soucier des temps anciens qui proposent ici de l'étrange, du grave et du piquant. Et voici une archive d'interactualité du 12 mars 1961.
La Grande-Bretagne, dites-vous, vient de battre un record.
Disons plutôt un autre record, car elle détenait déjà celui des vieilles filles. Et la voici maintenant au premier rang des pays occidentaux pour la bigamie. Un récent recensement vient en effet de révéler ce chiffre ahurissant. Il y a, écoutez bien, 20 000 bigames au Royaume-Uni, faisant vivre le plus officiellement du monde 40 000 épouses, soumises et pleines d'attention. D'ailleurs, le bigame anglais n'est pas du tout du genre Don Juan. Il aime le confort et ses pantoufles. Au moins deux paires, évidemment, et apparaît aux yeux de ses contemporains comme un mari parfait, plutôt deux fois qu'une, bien sûr. Un membre du Parlement, commentant cette statistique ahurissante, a déclaré « Les Britanniques, stables et flegmatiques, sont parmi les bigames les plus acharnés de l'Angleterre. Oh, cher et bigame Albion !»
Benoît Garneau, bonjour.
Bonjour.
Vous les retrouvez là, vos bigames, dans l'ordre du comique, du joyeux? Vous les prenez soit comme criminels, soit comme naïfs?
Moi, je les prends comme un objet d'histoire, donc sans porter de jugement sur eux. Mais je ne suis pas tellement étonné de cette information de 1961, parce que l'Angleterre ou la Grande-Bretagne ont toujours connu beaucoup plus de bigame que la France en particulier. Parce que dans ces pays protestants, le mariage n'est qu'un contrat, donc est beaucoup moins sacralisé que dans les pays catholiques, comme encore la France.
Donc ce chiffre de 20 000 bigames ne vous paraît pas extravagant ?
Il me paraît difficile à calculer en réalité. Mais le fait qu'il y ait un certain nombre de bigames au Royaume-Uni ne m'étonne pas. Mais 20 000 finalement, qu'est-ce que c'est sur une population de... Combien ? 60 millions d'habitants. 61, un petit peu moins que ça, peut-être. Mais...
Nous allons, parce que c'est notre état ici, nous allons rechercher la profondeur de champ, c'est-à-dire remonter loin en arrière.
Oui.
Est-ce que la bigamie, on la retrouve dans les écrits anciens, dans la Bible, chez les auteurs de l'Antiquité gréco-romaine ?
La bigamie, on la trouve chez les auteurs, oui, depuis toujours, enfin depuis qu'il y a des auteurs, mais pas de la même façon que... celle que j'aborde dans mon livre, qui se limite à la France et depuis la période moderne, enfin, et le milieu du Moyen-Âge. En fait, la bigamie, et même la polygamie, c'est une pratique courante, admise, normale, pendant très longtemps. Et c'est simplement à partir dans notre société, enfin, occidentale, à partir du triomphe tardif du catholicisme, que la bigamie devient un péché et un crime en même temps, et qu'elle devient interdite. Donc c'est un phénomène qui, à l'échelle de l'humanité, est assez restreint pour ce qui concerne le fait qu'on l'interdit. C'est restreint au point de vue géographique, essentiellement au monde catholique, et au point de vue chronologique, à une période relativement récente, c'est-à-dire, je dirais, un millier d'années à peu près, ce qui n'est rien par rapport à l'origine de l'homme.
Pour que la bigamie soit définie ou décelée, il faut que le mariage soit clair.
Oui, exactement. Il faut que le mariage soit clair, et il faut qu'il soit bien précisé dans ce mariage clair que le mariage est indissoluble, et que par conséquent, on ne peut se marier qu'une seule fois, tant que le conjoint est toujours vivant. Et ça commence en France à partir simplement du moment où le mariage, qui était pendant très longtemps un simple contrat, donc un contrat, il faut l'appliquer, mais si on l'applique pas, c'est pas trop tragique, c'est pas trop grave au point de vue de la société, c'est une question privée, tout simplement, pour l'essentiel. Ça commence à partir du moment où le mariage devient véritablement un sacrement. Il est sacralisé par l'Église, c'est-à-dire en 1184, donc assez tardivement.
Donc on ne s'étonne pas que Grégoire de Tours, à propos de Clotaire Ier, parle de sa bigamie de façon relativement indulgente. Voici un extrait de l'histoire des Francs de Grégoire de Tours du VIe siècle, qui est ici évoqué par Henri-Paul Hédoux dans le livre de chevet de Jean-Vincent Bréchignac sur France Culture en juillet 1968. Clotaire Ier fait irruption, Benoît Garnaud, dans notre conversation.
Comme Clotaire était déjà lié par mariage avec un gonde et l'aimé d'unique amour, il reçut d'elle la prière suivante. « Monseigneur a fait de sa servante ce qui lui a plu, et il m'a appelé à son lit. Maintenant, pour mettre le comble à ses faveurs, que Monseigneur le roi écoute ce que sa servante lui demande, je supplie qu'à ma sœur, votre esclave, vous daignez procurer par votre ordre un mari capable et riche, afin que rien ne m'humilie et qu'au contraire, plus élevé encore, je puisse vous servir avec plus de dévouement. » Fin de citation. Voilà donc la première scène. Un gonde rêve pour sa sœur Arnegonde d'un beau mariage. Comme Clotaire est tout-puissant, il peut bien lui trouver un bon et riche mari, mais la supplique n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Un gonde a dû tellement vanter les charmes de sa sœur que Clotaire en devient amoureux. Alors là, reprenons le récit de Grégoire de Tours. Lui qui était déjà trop enclin à la volupté, poursuit le chroniqueur, en entendant cela s'enflamme d'amour pour Arnegonde, se rend sur le domaine où elle résidait et l'unit à lui par le mariage. Quand il l'eut prise, il retourna près d'un gonde, la première femme, et lui dit « J'ai songé à l'accomplissement de cette grâce que ta douceur m'a demandée, et en cherchant un homme riche et sage que je dusse unir à ta sœur, je n'ai rien trouvé de mieux que moi-même. Tu sauras donc que je l'ai prise pour femme, je ne crois pas que cela te déplaise. » « Ce qui paraît bon aux yeux de mon maître, répondit la reine, « qu'il le fasse, seulement que sa servante vive toujours dans la grâce du roi.
Est-ce qu'on peut attribuer, Benoît Garneau, quelque humour à Grégoire de Tours ?
Oui, je pense. Ou bien son interprétation est un peu biaisée parce qu'en fait, il explique cette bigamie par la volupté du personnage.
Trop enclin à la volupté.
Oui, c'est pas le cas du tout. Il n'a pas besoin de se marier plusieurs fois pour satisfaire sa volupté, surtout de la part d'un souverain. Il a des concubines, sans aucun doute.
Si vous nous le dites, maîtresses. Si vous nous le dites, je suis tout prêt à vous croire.
Et ça fait partie d'une certaine nécessité. La bigamie là-dedans, elle a une autre raison d'être, qui est la succession. Avec deux femmes légitimes, il a plus de chances d'avoir des héritiers, des successeurs pour son royaume. Donc c'est pas une question de volupté, c'est une question d'utilitarisme politique en réalité. Et donc il y a rien de choquant à l'époque à cela. Ça fait partie des habitudes et des mœurs. Et même un souverain qui n'aurait pas plusieurs femmes serait sans doute déconsidéré. Parce que c'est une des preuves de la puissance et ça va avec le fait de diriger un État.
Donc une sorte d'approbation tacite de la bigamie. Ce qui nous conduit d'ailleurs à quelque chose qui va être au centre de notre émission, c'est-à-dire l'ambivalence des regards d'une société sur cette situation. Quatre siècles plus tard, le cas de Guillaume le Conquérant, que vous mettez également en lumière, me paraît révélateur.
Oui, c'est le même principe. On est avant la, enfin, ou à peine au moment où le mariage est sacralisé, dans une période un peu de flou encore, où l'Église essaye d'imposer son point de vue, mais le fait difficilement. Et Guillaume agit de la même manière. Il a plusieurs femmes, et ça fait partie de. En plus,
il est bâtard lui-même.
C'est ça. Il n'y a aucun scandale à l'époque à avoir des concubines, à avoir des bâtards, et les bâtards eux-mêmes ne sont pas dévalorisés. Et ça durait très longtemps, même après que le mariage chrétien l'a emporté, les bâtards des seigneurs et du roi a fortiori étaient considérés comme des enfants légitimes, jusqu'au XVIe siècle, je dirais. Et pour les rois, jusqu'à la fin du XVIIe, voire au XVIIIe siècle.
Je rappelle que Guillaume, duc de Normandie, est celui qui a conquis, comme son nom, si je puis dire, l'indique après coup, a conquis l'Angleterre. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'il y avait 20 000 bigames au Royaume-Uni dans l'archive que nous avions cité. La question, effectivement, des chiffres est très difficile à apprécier, on manque de sources.
C'est le problème essentiel, mais comme dans beaucoup d'autres domaines historiques, les sources principales sont, théoriquement, puisqu'il s'agit de déviances ou de crimes, sont les sources judiciaires. Seulement, on se heurte au problème habituel avec les sources judiciaires, c'est qu'elles nous donnent simplement la réalité de la répression pénale, mais pas du tout, ou pas forcément, la réalité criminelle. Donc c'est pas parce qu'il y aura plus de bigames poursuivis, par exemple, qu'il y a plus de bigames dans la société. Ça veut dire simplement que les juges s'y intéressent plus qu'auparavant.
C'est déjà Tartuffe. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense et ce n'est pas péché que pécher en silence.
Voilà, tout à fait. Je dirais même que pendant longtemps, c'est considéré comme n'étant même pas un péché de toute façon. Et c'est assez lentement que l'idée de péché dans la bigamie, instituée, je l'ai déjà dit, je crois, en 1184 par l'Église, il a fallu plusieurs siècles pour que cela soit intégré dans l'esprit de la population. Et ça s'est fait progressivement, allant du haut vers le bas. Et on se rend compte que, en voyant les sources judiciaires et en voyant le détail de certaines affaires, qu'un certain nombre de gens n'avaient pas vraiment conscience du fait qu'on ne pouvait pas se remarier quand on était déjà marié quelques années auparavant.
Vous trouvez des polygames occasionnels et des polygames professionnels dès cette histoire ancienne.
Je trouve d'abord des bigames qui ne savent pas qu'ils sont bigames, ou du moins qui prétendent qu'ils ne savent pas qu'ils sont bigames. Là, il faudrait
sonder les âmes.
Sonder les âmes.
Vous n'y parvenez pas.
Malheureusement, je fais des efforts, mais c'est assez difficile. Beaucoup de bigames prétendent qu'ils se sont remariés en pensant que leur conjoint était mort. Parce qu'il a disparu depuis pas mal d'années, il est parti à la guerre, il est parti ici ou là, on n'a pas de nouvelles depuis longtemps, donc il doit être mort, on peut se remarier. D'autres prétendent qu'ils peuvent se remarier parce qu'ils croient qu'au bout d'un certain nombre d'années de séparation, le mariage n'existe plus. C'est d'ailleurs ce qui est légal en Angleterre. Ça n'a jamais été en France, mais c'est légal en Angleterre. Bon, ça, ce sont ce que j'appelle les bigames malgré eux, en quelque sorte, même si on n'est pas toujours sûr que de leur franchise, et même si on peut en douter parfois. Et puis à côté de ça, il y a des bigames qui le font volontairement. Alors, soit par amour, pas parce qu'ils n'aiment plus le premier conjoint, parce qu'ils en aiment, ils aiment quelqu'un d'autre, qui veulent officialiser la chose.
Soit donc, par cupidité.
Soit, deuxième cas possible, ce que j'ai appelé plus ou moins, je crois, les bigames par intérêt, bigames, ceux qui se remarient ainsi pour des raisons pécuniaires essentiellement, pour parce que ils ont trouvé quelqu'un qui pouvait leur apporter beaucoup d'argent, mais seulement ils sont déjà mariés, ils épousent l'autre personne en espérant que personne ne saura qu'ils étaient déjà mariés une première fois et pouvoir mettre la main sur le magot, tout simplement.
Et au fil de vos pages, Benoît Garneau, on voit surgir des personnalités, des figures humaines qui sont évidemment le plus souvent très pittoresques. Oui. Je voudrais, ce personnage d'Alfortville m'a frappé.
Oui, c'est un bigame qui a eu un grand succès devant la presse et les lecteurs. Avant d'aller célébrer son deuxième mariage, il s'est habillé en tenue du dimanche chez lui avec sa première femme. Il a même fait nouer sa cravate par sa première femme. Et puis, il est parti au banquet, enfin, à la célébration de son second mariage, dont sa première femme, évidemment, n'était pas au courant. Seulement, elle s'est méfiée, elle a trouvé que c'était un peu bizarre. Et elle l'a suivi plus ou moins, elle a suivi même plutôt plus que moins. Et elle a débarqué dans le banquet.
Intriguée par le fait qu'il lui avait demandé de nouer sa cravate, peut-être.
Oui, enfin, elle a dû avoir des signes prémonitoires, on ne sait pas exactement quoi. Et donc, en la voyant, mais il est parti en courant. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que le soir même, on l'a vu avec sa première femme en train de dîner dans un restaurant.
Et que disait l'autre ?
On ne sait pas. L'autre, on sait qu'elle s'est évanouie quand la première femme est arrivée.
On comprend sa surprise.
Donc, elle ne devait pas être très contente. Et la nuit suivante, le couple avec la première femme a essayé de se suicider, enfin le bigame, et sa première femme. Après un dîner où ils avaient l'air de très bien s'entendre, d'après ce qu'ont dit les témoins, ils ont essayé de se suicider. Ils n'ont pas réussi. Bon, et puis voilà, on ne sait pas ce qui s'est passé après, mais ça a eu un très grand succès dans la presse. On parlait d'un bigame pittoresque, d'un bigame qui avait des trouvailles délicieuses, enfin, etc. On est à fin 19e siècle, au moment où la bigamie commence à devenir plutôt, même dans la réalité, un spectacle de vaudeville et sous la plume des journalistes qu'un crime véritablement.
Souvent, les femmes sont bigames et vous avez repéré une femme, il faut dire escroc ou escroque, je ne sais pas.
Ah, ça, je ne sais pas. Ben, voleuse, disons. J'en ai vu plusieurs, mais celle-là est sur une grande échelle. C'est Madame de Mortier. Elle a escroqué son... Alors, elle est mariée. Elle épouse un autre homme sans que son premier mari ne soit mort. Et son second mari, Monsieur Cass, elle l'escroque en lui faisant croire qu'elle possédait en dépôt à la Banque d'Angleterre 175 000 francs, ce qui est une grosse somme pour l'époque, on avait seconde moitié du 19e siècle, qu'elle possède une maison à Paris, et elle prend le nom de la vraie propriétaire de la maison pour la faire visiter à son futur second mari, et qu'elle possède aussi à Paris une tante à héritage qui, dit-elle, aurait vu d'un mauvais œil son mariage. C'est pourquoi elle peut pas se marier avec ce monsieur à Paris, mais à Londres. Ainsi, elle va l'épouser en Angleterre. Ils sont français tous les deux, mais elle va l'épouser en Angleterre. Et puis elle revient ensuite en France, ainsi. Et elle lui présente d'ailleurs en même temps une famille postiche, une fausse famille, des gens qu'elle a payés.
C'est plus que du talent, là, c'est du génie.
Oui, tout à fait. Et ça a été assez difficile à prouver, d'ailleurs, ensuite. Oui, on a des gens qui sont des vrais... On peut être vraiment très, très, très doué dans la bigamie. C'est au niveau d'autres crimes, dans la mesure où on prépare cela de façon extrêmement, extrêmement sérieuse. C'est pour ça que c'est vraiment, ça expliquerait, enfin, le sous-titre du livre, la criminelle ou naïf avec un point d'interrogation. Il y a des vrais criminels professionnels qui sont bigames, et puis il y a des gens qui deviennent bigames vraiment, vraiment pas par naïveté. On a tout le panel social, on l'a aussi socialement, on l'a aussi avec les âges, on l'a avec les sexes. Donc, on rencontre un petit peu toute la société parmi les bigames. En petit nombre, mais un microcosme, je dirais, de la société.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Vous êtes de ceux, Benoît Garnaud, des historiens qui nous ont appris à quel point l'histoire du droit peut être éclairante pour l'histoire des sensibilités des sociétés en général. Oui. Et c'est pourquoi je voudrais vous demander maintenant quelles sont les étapes du resserrement du maillage administratif contre...
Alors,
parce qu'il y a au moins trois moments,
oui,
essentiels.
Oui, il y a plusieurs moments essentiels. Jusqu'au XVIe siècle, il y a vraiment rien qui permette de prouver la bigamie, sauf si par hasard le premier conjoint rencontre le second conjoint, mais il suffit de s'éloigner de 10 ou 20 kilomètres du lieu du premier mariage pour être à peu près tranquille. Alors, la première mesure importante, elle date de 1579, c'est l'ordonnance de Blois, donc que décide la monarchie, le roi, qui précise, enfin qui crée les registres de mariage. Parce qu'avant, il n'y avait pas de registre, on se mariait, mais c'était pas noté ou que ce soit. Donc, ça, on crée les registres de mariage et on décide qu'il faudra qu'avant un mariage, les bans, BANS, soient proclamés les trois semaines précédentes à la messe dominicale.
Pour être sûr que personne ne s'y oppose, voilà, en disant « mais non, je l'ai déjà épousé, ce monsieur ou
alors,
cette dame ».
C'est fait pour contrôler la bigamie, c'est fait aussi pour éviter les mariages consanguins, mais enfin... Le sujet d'aujourd'hui, c'est la bigamie. Donc ça, c'est la première étape. Alors, c'est quand même très très limité, parce que les registres de mariage, ils restent dans la paroisse du mariage. Et puis, c'est toujours le même problème, si on part à 20 ou à 50 ou à 100 kilomètres, personne ne sera au courant. Et en plus, l'autre problème, c'est que ces registres de mariage, ils ne sont... la loi décide qu'ils doivent être tenus, mais il a fallu en fait... un siècle et demi, je dirais, pour que leur tenue soit vraiment généralisée. Au XVIe siècle, il y a très peu de paroisses où c'est fait. Au XVIIe, il y en a de plus en plus, mais on est loin de la majorité. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les registres soient tenus partout. Donc, ça montre d'ailleurs les limites, au passage, de l'absolutisme. Bon, deuxième mesure, c'est un bon siècle après, en 1697. En 1697, on augmente les moyens de contrôle, ou du moins, on les rend plus efficaces, en prévoyant des peines en justice importantes.
Elles s'alourdissent
contre les faux papiers. Donc, si on présente un extrait de baptême, par exemple, faux, enfin qui précise pas qu'on a été marié, ou bien si on présente surtout, c'est ça dans ce domaine, le faux papier, c'est un acte de décès du premier conjoint. Mais si c'est un faux acte de décès, évidemment, on va pouvoir se remarier. Mais si on peut prouver que c'est faux, eh bien, il y aura des conséquences pénales et on ne pourra pas se remarier.
Alors, quelle peine?
Lutte contre les faux témoins, puisqu'il fallait 4 témoins à un mariage. Et ces témoins devant promettre, jurer, qu'ils savent que les mariés n'ont jamais été mariés auparavant. Donc, si on voulait être bigame, on pouvait payer des faux témoins et puis on pouvait se marier ainsi. Et puis... Alors, ce qui est peut-être le plus important, on rend le curé responsable du mariage aussi. Ça veut dire que s'il y a bigamie prouvée après, le curé peut être poursuivi en justice et recevoir les peines prévues pour les bigames eux-mêmes, peines dont nous allons parler dans un instant. Bon, troisième étape, c'est 2 siècles après. Alors là aussi, je précise que c'est très difficile à appliquer les faux papiers. Il faut avoir des spécialistes qui puissent le prouver. Les faux témoins, on peut peut-être trouver, mais c'est pas évident du tout. Troisième étape, là vraiment, le maillage en quelque sorte de la répression ou de la surveillance devient beaucoup plus serré. C'est en 1897, donc déjà 2 siècles après la deuxième étape, avec l'obligation. Et là, on arrive à quelque chose d'efficace. L'obligation d'inscrire le mariage sur l'acte de naissance. Quand on se marie, on doit faire inscrire, et c'est l'administration qui s'en occupe, le mariage sur l'acte de naissance. Donc si on veut se remarier après, il faut montrer l'acte de naissance, mais il sera écrit dessus qu'on a déjà été marié. Alors théoriquement, c'est parfait, théoriquement, on peut pas, toutes les mailles du filet, on peut pas passer au travers. En réalité, c'est pas tout à fait parfait, en quelque sorte, puisque d'abord, il y a des failles administratives, c'est-à-dire qu'il faut passer par le procureur, ensuite par l'administration plus générale, pour arriver à inscrire sur l'acte de naissance. Et souvent, il y a des informations qui au passage, disparaissent parce que les fonctionnaires n'ont pas été sérieux, parce que ça a été perdu, parce que ça a été oublié. Et puis, deuxièmement, on peut falsifier, c'est-à-dire qu'on a pas mal de cas où on voit quelqu'un qui se remarie avec un acte de naissance sur lequel il n'y a aucun mariage inscrit, et en fait, c'est parce qu'il a effacé tout simplement la mention de son premier mariage sur l'acte de naissance.
Donc en réalité, c'est un des facteurs qui resserre tout de même le mariage, c'est l'évolution des techniques d'identification.
En exactement.
Particulier le Bertillon qui invente les
tout à fait.
Empreintes digitales.
Tout à fait. Mais alors, c'est le problème Bertillon et l'empreinte digitale de toutes les identifications, c'est qu'elles ne peuvent être employées qu'une fois qu'on a découvert l'acte de bigamie. Ça peut être que plusieurs années après. On ne prend pas les empreintes digitales au moment du mariage, mais on va les prendre quand quelqu'un aura été accusé de bigamie, pour vérifier un certain nombre de choses ainsi. Mais c'est après coup seulement. Donc ça n'empêche pas que le mariage soit fait. Alors ce qui empêche vraiment, ce serait une quatrième étape. C'est ce qu'on connaît depuis un certain temps, avec l'informatique, avec l'interconnexion en particulier de toutes les informations, qui font qu'aujourd'hui, il est presque impossible de se marier une seconde fois quand le premier conjoint est toujours vivant, sauf des bugs informatiques. Ça arrive, ça nous arrive à nous, ça arrive aussi aux gens qui peuvent devenir bigames, et surtout la création d'un bug, c'est-à-dire que on sait très bien qu'il y a des petits génies de l'informatique qui peuvent, contre argent par exemple, essayer de modifier l'état civil d'une personne et par conséquent lui permettre d'entrer en bigamie ainsi. Mais c'est quand même extrêmement limité, alors qu'il y a 3 ou 4 siècles, il suffit de quitter un peu le lieu où on vit et on peut se marier sans problème. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout.
Donc il faut prévenir nos auditrices et nos auditeurs, je dis auditrices parce qu'il y a aussi beaucoup
de
bigames qui sont des femmes, les prévenir que c'est devenu beaucoup plus difficile.
Beaucoup plus difficile.
C'est-à-dire que la carte d'identité, en réalité, est assez récente. Elle était d'abord créée pour les étrangers, et ensuite elle a été généralisée que dans l'entre-deux-guerres, 1935.
Et ce qui est notable, c'est que la répression est inverse en quelque sorte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on risque, si on est bigame, si on se fait prendre, si je peux m'exprimer ainsi, on risque au maximum 1 an de prison, ce qui n'est jamais appliqué, et 45 000 euros d'amende. Alors que, si je reviens en arrière, jusqu'au XVIe siècle, la répression de la bigamie est du ressort des tribunaux religieux, les officialités. Or, les officialités ne peuvent pas condamner à des peines de sang. Donc elles ne peuvent condamner qu'à un bannissement, qu'à une exposition au carcan, qu'à des peines de fouet, des choses comme ça. Mais ça va pas plus loin, même si le fouet n'est pas forcément très agréable. Il n'y a pas de mutilation, il n'y a pas de mise à mort. Bon. Alors au cours du XVIe siècle, un certain nombre de déviances contre les mœurs, donc la bigamie, mais aussi les infanticides, beaucoup plus, la violence des jeunes gens, tout ça passe sous la coupe de la justice royale. Donc on passe des officialités au bailliage, au présidio et au parlement. Et la justice royale, elle peut décider et faire appliquer des peines de sang. Donc ça peut aller jusqu'à la peine de mort.
Il y a eu des bigames, d'après vos informations, Benoît Garneau, qui ont été effectivement exécutés.
Oui, tout à fait. Alors que c'est organisé, il n'y a pas de loi précise sur la répression de la bigamie, à la différence d'un grand nombre de déviances, mais ce n'est pas le seul cas. Il y a un certain nombre. On n'a pas, sous l'Ancien Régime, un code pénal comme aujourd'hui, où tout est répertorié. On a des lois ponctuelles que le roi prend au fur et à mesure des années sur tel ou tel crime l'un après l'autre. Et jamais de loi n'a été prise sur la bigamie, ce qui prouve au passage que c'était pas considéré quand même comme quelque chose d'extrêmement dangereux pour la société. Alors concrètement, les magistrats se décident en fonction de deux critères. D'une part, la jurisprudence. Donc, ils voient ce qu'ont fait leurs prédécesseurs et puis et ensuite, ils décident. Et deuxièmement, et surtout, en fonction de leur arbitraire. Alors là, je voudrais être très précis parce que je veux pas qu'on dise des calomnies sur les magistrats d'Ancien Régime qui ont leurs défauts, mais aussi leurs qualités. L'arbitraire, aujourd'hui, c'est un terme qui est très péjoratif. Quand on parle d'arbitraire, ça veut dire quelqu'un qui décide n'importe comment, bon, et qui est dictatorial. L'arbitraire, pour l'Ancien Régime, c'est le libre arbitre. Donc, ça veut dire que les juges examinent chaque cas en fonction des circonstances. Donc, ils partent de la jurisprudence. Bon, en général, on décide ceci ou cela. Et si c'est plus grave ou moins grave, ils augmentent ou ils diminuent la peine. Alors, concrètement, ça donne quoi? Eh ben, ça donne, au début. Quand je dis le début, ça veut dire à partir du moment où c'est la justice, du roi qui prend la bigamie, qui s'occupe de la bigamie. Au début, ça veut dire des peines très dures. Donc fin 16e siècle, début 17e siècle, on a des peines de mort pour à peu près la moitié des personnes qui sont poursuivies pour bigamie. C'est-à-dire pas grand monde, mais quand même, moitié de peine de mort, c'est quand même quelque chose d'important.
En effet.
Et puis, il est probable que certaines ont été commuées par le roi en peine moins importante, mais là, on n'a pas d'information. Et ensuite, progressivement, on a une décrue progressive, avec d'abord la disparition des peines de mort au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Et en 1648, on a une décision très importante du Parlement de Paris, qui est la cour principale du royaume, qui dit qu'un bigame ne peut pas être condamné à mort. Non. Mais on applique des peines quand même importantes, des peines de galère pour les hommes, pas pour les femmes, parce que les femmes peuvent pas être condamnées aux galères, mais comme vous le disiez, les femmes sont quand même nombreuses parmi les bigames. À peu près 30% des bigames sont des femmes, 70% donc sont des hommes. Ce qui est assez remarquable, parce qu'en général, dans la criminalité, les femmes sont très très peu présentes, moins de 10%. Ici, on a 30%. C'est comme pour les crimes passionnels, à peu près. C'est-à-dire qu'on est un peu dans le même genre de monde, enfin de domaine. Et donc, les peines diminuent progressivement. Oui. Alors, au XVIIIe siècle, on a 30% de galères, 30% de bannissements et 30% de plus ample informé, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir de nouvelles informations. Donc, en fait, ça veut dire que c'est un acquittement, quoi, tout simplement. Alors, après, avec la Révolution, la fin de la monarchie, la loi, cette fois, prévoit des peines pour les bigames dans le code pénal. C'est d'abord le bagne, à partir du premier code pénal, au début du 19e siècle, 10 ans de bagne, ça passe en cour d'assises. C'est appliqué au début du 19e siècle, et puis là aussi, progressivement, on a une décrue, c'est-à-dire que le bagne disparaît, remplacé par la prison, au cours du second tiers du 19e siècle. Et à partir du dernier tiers du 19e siècle, la prison elle-même a tendance à disparaître, à devenir peu importante. On a de plus en plus de peines avec sursis. Et au XXe siècle, à partir du début du XXe siècle, eh bien, on ne condamne presque plus les bigames. On les condamne à des peines très légères, voire on les acquitte. Et les journalistes ont une plaisanterie qu'ils trouvent très fine, qui est de dire que ils ont déjà assez souffert d'avoir eu deux conjoints et surtout d'avoir eu deux belles-mères. Et c'est ce qui montre que la bigamie apparaît de plus en plus comme quelque chose de comique, de folklorique.
Oui, en même temps, à toutes les époques, vous le montrez bien, une des défenses des bigames a été d'expliquer qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient bigames. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est encore actuel en 1962, puisque nous pouvons constater les malheurs de Sophia Loren, qui découvre qu'elle peut être accusée de bigamie, ou plutôt que Carlo Ponte, son mari, risque de l'être, avec des conséquences pour elle. Écoutez cette archive.
Sophia Loren est désolée. Sophia Loren est désolée parce qu'elle vient d'apprendre en arrivant à New York que le procureur de la République italien a l'intention de l'arrêter pour bigamie si elle revient en Italie. En réalité, c'est Carlo Ponti, son mari, qui est bigame puisqu'il a divorcé de sa première femme au Mexique et que la loi italienne ne reconnaît pas le divorce. Sophia Loren est aussi désolée parce que si elle veut se rendre en Italie le 3 mars pour le mariage de sa sœur Maria avec le musicien de jazz Romano Mussolini, fils du dictateur, mais oui, elle risque d'être jetée en prison. Malgré cela, elle a déclaré aux journalistes « Je n'ai qu'une sœur et je veux absolument être présente à son mariage. Mais je ne sais absolument pas ce qui se passera quand j'arriverai là-bas. » De toute manière, on voit assez mal les Italiens mettant Sophia Loren en prison et se privant ainsi d'une source de revenus particulièrement chère au fisc de la péninsule.
Alors nous voilà Benoît Garneau, dans le monde de la fiction, dans le monde tragique ou comique, où apparaissent les bigames. Vous observez d'une façon qui est frappante que les bigames sont plutôt rares et surtout plutôt tragiques dans le roman depuis le 18e et aussi au 19e siècle. Vous citez le cas de Moll Flanders, de Daniel Defoe, le fameux auteur de Robinson Crusoe. C'est une œuvre assez révélatrice.
Oui, elle est révélatrice de la conception qu'avaient les Anglais essentiellement, puisque Defoe était anglais, bien sûr, comme tout le monde le sait, de la bigamie. Moll Flanders a plusieurs conjoints successifs, sans que les précédents soient morts. Mais il y a une plus qu'une tolérance, il y a un encouragement à le faire. Quand elle ne s'entend plus avec son conjoint, eh bien les deux se séparent de façon, enfin en se mettant d'accord entre eux, en se promettant de pas se poursuivre ensuite s'ils se remarient, et on se remarie sans problème.
Le titre complet en français, oui, de l'œuvre est tout à fait représentatif. Heure et malheur de la célèbre Moll Flanders qui naquit à Newgate et pendant une vie continuellement variée qui dura 60 ans, en plus de son enfance, fut 12 ans une catin, 5 fois une épouse, 5 fois, dont une fois celle de son propre frère, 12 ans une voleuse, 8 ans déportée pour ses crimes en Virginie et enfin devint riche, vécut honnête et mourut pénitente. C'est une bigame à la vie colorée.
Oui. C'est un euphémisme. Oui, oui, elle a une vie extraordinaire. C'est un très beau roman, d'ailleurs. Et il a été traduit en France très rapidement. Et
beaucoup de succès.
Il a bien connu beaucoup de succès. Et il en a encore aujourd'hui, je crois. Les Français, enfin, on peut écrire sur la bigamie. On a d'abord le cas de Molière avec Monsieur de Pourceaugnac.
Alors, Monsieur de Pourceaugnac, effectivement. Rappelez-nous quelle était l'intrigue.
L'intrigue, un monsieur doit... Et a été promis à une jeune fille qui ne veut pas de lui et qui a son propre fiancé, enfin c'est pas officiel. Et pour empêcher le mariage, des amis de ce fiancé font venir deux femmes qui accusent ce monsieur de Pourceaugnac, le promis, ceux qui devaient épouser la jeune fille, d'être déjà marié. Donc il apparaît comme déjà bigame. Alors évidemment, le père de la jeune fille est horrifié, et on renvoie le monsieur, et la jeune fille peut épouser le jeune homme qu'elle aimait. Donc tout finit bien. Mais ça prouve que... Enfin, on dit dans une chanson, à la fin, que la bigamie est un cas pendable. Ce qui est une erreur chronologique, parce que c'est 1659, et depuis 15 ans au moins, ce n'est plus un cas pendable.
Alors bon, Molière n'a pas le respect de la chronologie.
Non, mais... On lui pardonnera.
Il y a une œuvre, si nous nous portons vers le 19e siècle, une œuvre qui est centrale du point de vue qui nous occupe, c'est-à-dire l'histoire des bigames, qui est toujours dans l'ordre du tragique, c'est le colonel Chabert.
Alors là, c'est beaucoup
de Balzac.
C'est beaucoup moins gai et festif que Moll Flanders, et a fortiori que Monsieur de Pourceaugnac, puisque donc le colonel Chabert revient des combats de l'Empire, 10 ans après avoir été blessé à Hello, très, très gravement. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se guérisse, qu'il revienne en France.
On l'avait cru mort, mais il était enseveli sous un monceau de mort.
Exactement, il a réussi à s'en sortir, il a été recueilli, il a été soigné, bon, enfin, il se passe plein de choses. Mais 10 ans après la bataille d'Hello, il revient à Paris, et là, il trouve sa femme remariée à quelqu'un d'autre. Donc, il essaye de retrouver ses droits, et puis finalement... Pour différentes raisons, il finit par abandonner, parce qu'on lui a expliqué surtout qu'il n'avait pas de chance, il n'était pas sûr de retrouver ses droits, parce qu'il fallait qu'il prouve vraiment ça, qu'il était lui-même. Or, il avait été extrêmement abîmé par le temps et par les blessures. Et puis surtout parce que...
C'était avant l'ADN.
C'était avant l'ADN, exactement, avant même les empreintes digitales. Et surtout parce que sa femme remariée a eu des enfants. Donc si on brise le second mariage... Les enfants se retrouvent illégitimes, Et ça, c'est difficile à admettre. Et ce cas-là, on le retrouve assez souvent, d'ailleurs, quand un cas de bigamie est poursuivi en justice, qu'il y a eu des enfants entre-temps avec le second conjoint, à ce moment-là, la justice a du mal à... Elle ne sait pas trop quoi faire, et alors qu'elle devrait supprimer le second mariage, déclarer les enfants qui sont nés comme illégitimes, elle ne le fait pas en général. Donc il y a un accommodement entre le droit et les faits, ce qui est d'ailleurs classique dans la pratique judiciaire. Mais les magistrats sont des êtres humains et essayent d'apprécier les choses. En fait, on considère en général que la période qui s'est passée entre le second mariage, bigamie, et la découverte du second mariage, est une période de non-droit, en quelque sorte. Donc, si s'est passé des choses pendant ce temps-là, c'est-à-dire notamment la naissance d'enfants, eh ben, on l'admet. On n'admettra pas si ça se passe après la découverte, mais après la découverte, c'est plus possible.
Dans le cas de Chabert, effectivement, pour lui, c'est dramatique, puisqu'il finit lamentablement
à l'hospice.
Je voudrais aussi citer le cas, bien sûr, des Trois Mousquetaires. Ouais. Ce n'est pas au centre de l'intrigue, mais Milady. Peut-être est ouais. Tout à fait représentative.
Milady, elle a été...
Rappelez-nous, la femme d'Athos, etc.
Milady a été... avait séduit un prêtre avec qui elle était partie, après avoir volé des bijoux. Le prêtre est pris, condamné. Elle s'enfuit, mais le frère du prêtre, qui était le bourreau de Lille, la marque au fer rouge d'une fleur de lys, qui était la marque des gens condamnés à l'époque. Elle n'a pas été condamnée, mais elle a la marque. Bon. Personne n'est au courant, sauf elle. Elle épouse Athos.
Le comte de l'affaire.
C'est ça. Qui, un beau jour, voit sur son épaule, sur l'épaule de sa femme, cette marque. Donc,
Ça a dû lui faire un choc,
surtout. Il est noble, enfin, il a des principes. Alors, il la pend aussitôt. Il la pend, et puis il s'en va, persuadé qu'elle est morte. Seulement, elle n'est pas morte. Dumas n'a jamais expliqué comment il se fait qu'elle soit pas morte, que vous soyez ressuscité.
La corde doit être enfin, du cassé.
Elle part en Angleterre, elle épouse Lord de Winter, enfin. Et donc elle est bigame, puisqu'elle a un mari en France, et elle a un mari en Angleterre. Bon, elle n'est pas bigame très longtemps, parce qu'elle empoisonne Lord de Winter. Et ensuite, bon, on la retrouve, les mousquetaires la retrouvent, elle a tué la bonne amie de D'Artagnan, qui était Madame Bonacieux. Bon, finalement.
Ça finit mal pour elle.
Ça finit très mal. Ils font venir de nouveau le bourreau de Lille, et le bourreau la décapite. C'est ce qu'on appelle de l'extra-justice, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a l'air judiciaire, mais qui n'est pas du tout judiciaire. D'ailleurs, après, dans les romans suivants, ils ont des remords, on s'en rend compte.
Fin d'une de vos bigames préférées, Benoît Garneau, je le sens bien.
Oui,
j'aime beaucoup Milady.
Elle a un grand charme, c'est sûr.
Alors ça,
il faut se méfier d'elle.
C'est le versant lourd, dramatique du côté du roman. Et en revanche, du côté du théâtre et bientôt du cinéma, on trouve des bigames plutôt joyeux, c'est dans une sorte d'allégresse ou d'ironie, oui, suivant les cas. Alors, écoutez donc cet extrait d'un film notoire de Georges Lautner, 1983. Attention, une femme peut en cacher une autre, avec Miu Miu, Eddie Mitchell et Roger Hanin.
Vincent, j'ai un enfant avec Philippe. Philippe, voilà, quand je t'ai retrouvé l'année dernière... Je t'ai pas dit que je vivais avec Vincent. On a un petit garçon et une petite fille.
C'est bête, moi qui ai beaucoup d'humour, j'ai pas d'humour pour ce genre de truc-là.
Moi non plus, je suis comme vous.
Pourquoi tu...
Bon, allez-y.
Bon, allez-y, allez-y. Pourquoi tu me l'as pas dit, Alice?
Non, moi j'allais dire pourquoi tu me le dis.
Ben voilà.
Mais... Y'a que nous.
Évidemment.
Mais évidemment. Et naturellement, c'est moi que tu préfères, finalement.
Non.
Si.
Non, mon pauvre vieux, non.
Non, mais il va, lui. Enlevez votre main sur ma femme sans me commander.
Votre femme? Votre femme? Où ça, votre femme? Où ça?
Là! Là, ma femme!
Lâchez ça tout de suite!
Me lâchez ça, mais tu entends comment il parle? Mais qui c'est?
Alice, debout, tu rentres à la maison tout de suite!
Mais c'est moi qui l'ai vu le premier, quand même! Hein.
On va marcher un peu.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
La presse, évidemment, Benoît Garneau, s'en donne à cœur joie.
Alors, c'est c'est une période assez précise. Vous savez que la grande presse des faits divers, c'est la seconde moitié du 19e siècle, avec des tirages considérables de plusieurs millions. Et donc, la grande presse faisait ses choux gras des faits divers. Donc, dans les faits divers, il y a les affaires de bigamie. Et c'est très limité. Comme, de même que la bigamie est très limitée dans les tribunaux, c'est une ou deux affaires par an, en général, pas plus, trois ou quatre parfois, qui sont racontées contre plusieurs dizaines, sinon plusieurs centaines d'affaires de sang en particulier.
Mais pour l'essentiel, on trouve toujours cette plaisanterie des jurés qui sont tous surpris que, étant eux-mêmes mariés, on prenne deux femmes comme si une seule ne suffisait pas.
Et c'est pourquoi ils trouvent puisque ça passe en cour d'assises, donc c'est un jury populaire, et le jury populaire, de plus en plus au fil des années, trouve que les peines qui sont prévues sont des peines trop lourdes, c'est-à-dire 10 ans de bagne. Ils trouvent que les peines sont trop fortes, c'est la même chose que pour les infanticides, donc ils décident de plus en plus que les bigames sont non coupables, même si leur culpabilité est évidente, pour éviter qu'on leur applique des peines trop importantes. C'est pourquoi les bigames se trouvent systématiquement acquittés. C'est pour ça qu'en 1933, la bigamie qui était un crime ne devient plus qu'un délit qui passe devant les tribunaux correctionnels, donc avec des magistrats professionnels, et on suppose qu'ainsi il y aura quand même une répression. C'était un peu optimiste ou pessimiste, je ne sais pas comment il faut prendre les choses, puisqu'en réalité, même les magistrats professionnels ont très peu condamné les bigames.
L'ambiance d'ailleurs est du côté parfois presque de la pantalonnade, ou en tout cas d'une espèce de gaieté systématique. Par exemple, le dessinateur de presse Henriot, excellent dessinateur, met en scène l'histoire de bigame qui est jugée en cour d'assises, et l'avocat général l'aurait excusé. L'homme dans son réquisitoire: saluons ce martyr du devoir, messieurs, cet homme qui a eu deux foyers, deux femmes, deux belles-mères, et qui n'en est pas mort. Et ne l'oubliez pas, qui a eu sept enfants qui contribueront à la prospérité de la France. Fin de citation.
Là, on arrive au vaudeville, en fait, dans les prétoires, pratiquement.
L'opéra comique aussi, Benoît Garneau, s'est saisi de la bigamie, je pense, au Postillon de Longjumeau, qui a été un grand succès à l'époque, moins joué aujourd'hui, d'Adolphe Adam, sur un livret d'Adolphe de Leuven et de Léon Lévy-Brunschwick, un opéra comique de 1936, qui est ici donné le 12 juillet 1953. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un postillon, c'est-à-dire de ce personnage qui est assez brillant, à cheval, allait de village en village apporter la poste. L'intrigue est la suivante. Il tombe amoureux d'une femme, il l'épouse, et puis ensuite il se sépare, cette dame arrive à la ville, devient très mondaine. L'autre, qui est un chanteur ténor, il chante admirablement, paraît-il, le Kontrut, l'autre arrive aussi dans cette ville et tombe amoureux de la même dame sans savoir que c'est sa femme. Et donc il va se croire bigame, d'où l'idée d'un risque qu'il prend, il risque d'être pendu. On rejoint la question des peines que vous évoquiez tout à l'heure, Benoît Garneau. Écoutez donc.
Pendu, 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 pendu. Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu?
Pendu, 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 pendu.
Que dis-tu, que dis-tu?
Pendu, pendu,
pendu,
pendu, pendu.
À la fin, je me lance. D'où devient cet effroi?
Passez le coup de grâce. Il a assez fait de moi.
Explique-toi.
Devines-tu?
Explique-toi.
Devines-tu?
Mais répondons.
Devines-tu?
Parleras-tu?
Pendu, 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 pendu.
Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu? Que dis-tu?
Pendu,
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 pendu. Que dis-tu? Que dis-tu? M'expliqueras-tu? M'expliqueras-tu? Que dis-tu?
Pendu,
pendu.
Ce diable de marquis, tout dedans ce logis, nous avait mis sous clé, nous avait mis sous clé. Tu me vois accablé,
tu me vois accablé.
Mais dis-moi donc,
sauvons-nous vite.
Explique-toi,
prenons la fuite.
Mais pourquoi cet air effrayé?
Fuis, la justice nous réclame.
Un vrai prêtre t'a marié.
Je suis venu trop tard et tu n'es qu'un bigame.
Un bigame.
Un bigame, un bigame, bigame.
Picard.
Maintenant, comprends-tu?
Oui, très bien.
Maintenant, comprends-tu? Mais pour ce crime-là, quoi, je serais pendu, 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 pendu.
Que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu, que dis-tu,
pendu,
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 pendu, que dis-tu, que dis-tu, l'ai-je bien entendu, que dis-tu, que dis-tu, pas pendu,
pendu, pendu.
Pendu ou pas pendu?
Non, pas pendu, non, non. C'est pour lui faire peur, mais en fait, il ne peut pas être pendu. Il ne peut plus être pendu. D'ailleurs, on est au 19e siècle, donc on ne pend pas, on guillotine. Mais il ne peut pas y guillotiner non plus.
Un autre aspect intéressant de cette histoire des bigames dont nous parlons ce matin, ce sont les débats autour de ce comportement. Est-ce que c'est une pratique qui relève du domaine public ou du fort privé? C'est là qu'on voit intervenir des autorités comme Voltaire ou Montesquieu, alors que les jurisconsultes, en général, sont très sévères. Je vois que votre ami Pierre-François Muyard de Vouglans, au 18e siècle, explique que la bigamie fait partie du crime de luxure qui comprend l'adultère, la polygamie ou bigamie, le stupre, le macrélage, le concubinage, le viol, le rapt, l'inceste, la sodomie, la bestialité, n'en jetez plus. En revanche, on voit Voltaire, par exemple, expliquer qu'après tout, c'est une affaire privée, il n'y a pas de raison de traîner un bigame.
En effet, les avis sont très contrastés. Ceux qui pensent que c'est une affaire publique considèrent essentiellement d'abord que c'est un péché, donc c'est l'aspect religieux, mais surtout que c'est nier le mariage, le couple, qui représente un microcosme de l'État. Par conséquent, s'en prendre à l'organisation du mariage, c'est s'en prendre à l'organisation de l'État et de la société. Donc au roi, donc c'est un crime public. En revanche, les auteurs comme Voltaire, ou même avant Montaigne au XVIe siècle, considèrent que c'est une pratique qui relève du fort privé. Ça ne veut pas dire qu'ils l'approuvent, mais plus particulièrement des traditions locales ou nationales.
Montaigne disait déjà que chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Voltaire explique qu'après tout, on devrait distinguer entre les devoirs universels et les devoirs locaux.
Oui,
c'est déjà
ça,
la question très actuelle de la morale universelle. Oui. Et il ajoutait « n'épouser qu'une femme est un devoir local
oui. ».
Montesquieu aussi insiste sur la relativité des pratiques selon les régions du monde et naturellement c'est au climat qu'il attribue cette diversité.
Oui, tout à fait. Il ne dit pas que la bigamie est bien, mais il dit que la bigamie ailleurs, c'est parfaitement normal si c'est l'habitude. Mais il ne prône jamais quand même pour autant que la bigamie se produise, soit admise en France. Ils sont pour la tolérance ailleurs, quelque sorte. Mais il ne se prononce pas véritablement, mais enfin, Montesquieu est un juriste notamment, et il ne prône pas du tout la polygamie. Mais de toute façon, tous ces gens-là acceptent parfaitement les amours illégitimes. Donc,
quels sont les liens entre cette question et le féminisme? On a des textes intéressants que vous mettez en valeur dans votre livre, Benoît Garneau.
Les féministes sont très hostiles à la bigamie. Alors, elles ne parlent que de la bigamie exercée par des hommes, donc un homme ayant deux femmes à la suite. Mais enfin, bon, le principe reste le même. Mais elles trouvent que la bigamie est... D'une part, elles sont hostiles, mais en même temps, elles trouvent en général qu'elle est trop punie, du moins dans la loi, parce qu'elles mettent la bigamie sur le même plan que les amours illégitimes. Et elles disent, eh bien, on punit un homme qui a deux femmes, on peut le punir de 10 ans de travaux forcés, du moins en théorie, alors qu'un homme qui a 10 maîtresses est parfaitement libre de cela et n'aura aucune punition.
C'est là qu'on retrouve l'idée de spiritualité ou de sacré du mariage,
oui,
propre aux civilisations catholiques.
Tout à fait, exactement.
Mais je vois néanmoins qu'elles sont très très sévères. Je relève après vous dans une publication de 1916, l'Action féminine, ces phrases: accepter la bigamie comme principe reconnu, même temporairement, serait un tel recul de la civilisation, un tel avilissement de la femme, qu'il nous est impossible d'envisager un seul instant la déchéance qui en résulterait certainement, oui, pour elle. Là, il ne songe pas qu'une femme peut-être bigame.
C'est très conjoncturel, on est en 1916, et certaines personnes demandent à ce que la bigamie soit légalisée, puisqu'on a eu beaucoup de morts à la guerre. Par conséquent, si les hommes avaient plusieurs femmes officiellement, ils auraient plus d'enfants, et par conséquent, on pourrait remplacer tous les jeunes gens qui sont morts à la guerre. Donc c'est conjoncturel, mais enfin, sur le fond... C'est vrai à toute époque, les féministes sont contre la bigamie.
Benoît Garneau, il faut que nous sortions notre train d'atterrissage, puisque malheureusement, l'émission va s'achever. J'ai le goût de vous demander, pour finir, ce que vous voyez de l'actualité des bigames, hommes ou femmes, aujourd'hui.
Aujourd'hui, la bigamie n'a plus vraiment de raison d'être, puisque pourquoi devenir bigame aujourd'hui alors qu'on peut divorcer très facilement ? Simplement par consentement mutuel depuis 1975. Bon, le divorce a été introduit en France à la fin du 19e siècle, mais c'était très difficile. Il fallait vraiment prouver une infidélité essentiellement.
La loi Naquet de 1884.
Exactement. Mais depuis 1975, on peut divorcer extrêmement facilement. Donc, pourquoi risquer ensuite ? Pourquoi essayer de dissimuler ? Pourquoi essayer de se remarier autrement ? Il suffit de quitter le domicile conjugal pendant 2 ans et le mariage est dissous. Donc, on peut se remarier sans problème. Alors, il y a encore quelques nostalgiques, peut-être, de la bigamie qui agissent. Ils risquent très peu de choses, 1 an de prison. Et là, j'ai pas de statistiques parce que j'ai l'impression que ils sont extrêmement peu nombreux, sans aucun doute. Et d'ailleurs, on trouve pratiquement plus d'affaires de bigamie dans les archives judiciaires aujourd'hui. Il n'y a même pas de catégorie judiciaire dans les statistiques du ministère de la Justice. C'est-à-dire que c'est une activité non seulement en déclin, mais en déshérence.
Eh bien, en somme, nous pourrons conclure que cette émission qui était consacrée aux bigames n'était pas un petit vadémécum des bigames à venir, puisqu'il n'y en a plus guère. Donc, Vous me rassurez beaucoup, Benoît Garneau, au terme de notre conversation. Votre ouvrage s'intitulait « Histoire des bigames » avec le sous-titre « Criminels ou naïfs ». Les deux, apparemment, ont existé, paru au Nouveau Monde Édition en 2015. Je renverrai aussi à votre histoire du crime passionnel, « Mythes et archives ». Nous avions à ce sujet consacré une émission qui est toujours en ligne. C'est une édition chez Belin de 2014. Et puis, il y a un ouvrage particulièrement important parmi votre bibliographie, c'est l'Histoire de la justice, France, 16e, 21e siècle, paru chez Gallimard en 2008. On trouvera naturellement l'évocation d'autres ouvrages que vous avez donnés, Benoît Garneau, en ligne, avec une bibliographie plus complète. Et je rappelle que les références des documents sonores que nous avons utilisés peuvent être également consultés en ligne. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin Loïc Duros à la prise de son, Célian Guillemard à la discothèque et Hervé Evano pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.